Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Rappelons tout d'abord, frères et sœurs, que cette partie du sermon sur la montagne ne s'adresse pas aux citoyens du royaume. Elle s'adresse de préférence à la foule, au milieu de laquelle il y avait bien entendu des juifs, des scribes, des pharisiens et j'en passe. Souvenez-vous que quand on a commencé à étudier l'éthique du royaume, Matthieu chapitre 5 en particulier, je vous avais dit que Jésus avait devant lui un double auditoire. C'est-à-dire, il y avait la foule, il y avait les disciples. Cette compréhension que nous avons de l'auditoire de Jésus, tandis qu'il proclamait le sermon sur la montagne, s'appuie sur le verset premier. J'avais attiré votre attention sur le verset premier où il est écrit, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. C'est alors qu'il ouvrit la bouche et les enseigna. » Donc, Jésus avait deux catégories d'auditeurs qu'il écoutait, la foule et les disciples. Quand j'avais dit cela la toute première fois depuis qu'on a commencé à étudier ensemble, en tout cas la toute première fois où on a commencé à étudier, je vous avais dit de garder bien cela en tête parce que vous en aurez besoin. Je me rappelle comme si c'était hier, vous avoir dit aussi que quand je vais arriver à un de ces endroits-là du déroulement de l'étude où vous allez avoir besoin de cette vérité, je vous le dirai. Eh bien, chose promise, chose due, je le fais maintenant. Vous avez besoin de garder en tête que Jésus vient de parler du verset 1er jusqu'au verset 16 aux enfants du royaume, aux citoyens du royaume. Et maintenant, il s'adresse à la foule. Cela ne veut pas dire que ce que Jésus est en train de dire ici ne nous concerne pas en tant que citoyens du royaume, en tant qu'enfants du royaume, loin de là. Et dire que cela s'adresse à la foule signifie que quand Jésus s'expliquait sur ce point-là, le point que nous allons considérer, il n'avait pas en vue les disciples, dans la mesure où les disciples sont déjà dans le royaume des cieux. Voyez-vous, c'est entre autres en ce sens-là que je dis que cela ne les concerne pas. Parce que c'est écrit, si votre justice, au verset 20, ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le « vous » ne peut pas être les disciples dans la mesure où ils sont déjà dans le royaume. Donc, bien important de comprendre cela pour eh bien, la suite des choses. Maintenant, cela dit, mes frères et mes sœurs, revenons au verset 20. Dans ce fameux verset 20 de Matthieu, chapitre 5, nous remarquons que Jésus parle de deux sortes de justice. Jésus parle de deux justices. La justice des scribes et des pharisiens et une autre justice qui est censée dépasser la justice des scribes et des pharisiens. C'est important de comprendre cela aussi pour s'assurer de comprendre le sermon sur la montagne, ou plus particulièrement la suite du sermon. Il importe de comprendre, mes frères et mes sœurs, la signification de chacune de ces deux justices afin de comprendre en quel sens, selon Jésus, c'est la justice qui dépasse la justice des scribes et des pharisiens qui permet à un pécheur comme vous et moi d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus entend par la justice des scribes et des pharisiens? Pour répondre à cette question, disons tout d'abord, frères et sœurs, que parler de justice dans ce contexte, justice des scribes et des pharisiens, revient à parler d'obéissance par rapport au commandement de Dieu. Justice ici parle d'obéissance au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. Il est question ici d'application des règles de conduite prescrites par la loi. La justice des scribes et des pharisiens est une justice axée essentiellement, fondamentalement, sur l'application des règles de conduite édictées ou bien prescrites par la loi et aussi par la tradition rabbinique. C'est une justice, la justice des scribes et des pharisiens. C'est une justice axée sur la performance en termes de combien de commandements est-ce que le scribe ou le pharisien respecte, l'homme ou la femme respecte, à quel degré et à quelle fréquence il respecte ces commandements-là. Ainsi, la justice ou l'obéissance des scribes et des pharisiens, c'est une justice, frères et sœurs, ou bien une obéissance qui s'attachait à la forme, à la lettre. Ou bien c'est une justice ou une obéissance qui s'attachait à une conformité extérieure à la loi de Dieu. Jésus dit ici, l'oratoire, peuple du Seigneur, que cette justice ne mène pas au royaume des cieux, ou alors au royaume de Dieu. Je vous avais expliqué que les deux veulent dire la même chose. Au contraire, dit Jésus, la justice ou l'obéissance qui permet à quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux, c'est la justice ou l'obéissance qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. Cela dit, quelles sont, cette fois-ci, maintenant, les caractéristiques de la justice ou de l'obéissance? Nous sommes toujours au verset 20. C'est très, très important parce que tout ce que Jésus va dire dans la suite du chapitre 5 jusqu'au verset 48 va dépendre de cela, du verset 20. Ainsi, tout ce que nous allons entendre ou voir, lire du reste, notre compréhension du reste va dépendre de notre compréhension du verset 20. Alors, c'est la raison pour laquelle je passe autant de temps là-dedans, parce que c'est la base, c'est le fondement de la suite, bien important. Maintenant, je viens d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, la justice des Juifs, des scribes et des pharisiens. Maintenant, voyons ce que c'est la justice qui surpasse l'autre justice, celle qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. En quoi consiste cette justice, quelle est-elle, cette justice? Quel est le contenu de la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens? La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens et qui mène au royaume de Dieu, au royaume des cieux, qui permet à un homme ou à une femme d'entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est la justice ou l'obéissance qui est vécue en profondeur, du moins dans le cœur humain, dans le cœur de l'homme. C'est la justice intérieure. C'est la justice, non de la lettre, mais de l'esprit. C'est la justice des motivations, la justice de l'intention. C'est cette justice que Dieu a annoncée par les saints prophètes comme étant la justice qui surpasse celle des juifs et des pharisiens qui mènent dans le royaume des cieux. C'est cette justice que Dieu a annoncée par les saints prophètes depuis l'Ancien Testament comme étant, suivez-moi bien, comme étant l'une des bénédictions de Dieu pour son peuple au temps de la venue du Messie ou bien au temps de la venue du royaume de Dieu dans le Messie ou bien à travers le Messie. Où Dieu l'a-t-il annoncé, pasteur? Jérémie 31, verset 33, entre autres passages de l'Écriture. Jérémie 31, verset 33. Voici cette justice. Voici la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ah! Votre serviteur a parlé tout à l'heure de la justice qui est vécue en profondeur, ou du moins dans le cœur. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça commence à être clair. Dans Ézéchiel 36, le verset 27, nous voyons la même annonce. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Voilà la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Voilà l'obéissance qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Votre serviteur vient de vous dire que Dieu avait annoncé cette obéissance, cette justice, comme étant une des bénédictions, eh bien, qu'il leur a données au temps de la proximité du royaume dans le Messie. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà la forme et le contenu de la justice qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens, frères et sœurs, a remarqué l'oratoire, peuple du Seigneur, que la promesse de Dieu de mettre sa loi dans leur cœur ou dans nos cœurs, votre cœur à vous, mon cœur à moi, est associée avec la promesse de leur donner ou bien de nous donner à vous et à moi, parce que la promesse est pour les Juifs, elle est pour nous aussi, elle est pour les païens aussi, à travers Jésus-Christ. Elle est associée avec la promesse de nous donner son esprit. Tantôt, c'est la loi qui est gravée au cœur du croyant, tantôt, c'est l'esprit qui est gravé dans son cœur. Tantôt, c'est le don de l'esprit, tantôt, c'est le don de la loi inscrite dans son cœur. Il en est ainsi, frères et sœurs, cette association, il y a cette association, donc, il en est ainsi parce que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ que cette loi est inscrite dans nos cœurs, que cette loi soit inscrite dans leur cœur à eux autres. En sorte que l'oratoire, peuple du Seigneur, seuls ceux, suivez-moi bien, seuls ceux que le Saint-Esprit de Dieu a régénéré et en qui le Saint-Esprit de Dieu habite sont capables de la justice ou bien de l'obéissance qui surpasse la justice ou l'obéissance des scribes et des pharisiens, frères et sœurs. Autrement dit, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu sans cette justice ou cette obéissance qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, parce que cette justice, c'est celle qui témoigne de la nouvelle naissance. Puisque nous l'avons vu ensemble, Jésus a clairement dit à Nicodème que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Ce que tout cela veut dire essentiellement, peuple du Seigneur, c'est la chose suivante. Avec le roi du royaume, avec Jésus, le Fils de Dieu, donc le Messie, celui en qui le royaume est venu, la loi n'a pas changé, et encore moins, la loi n'est pas annulée. La loi relève de la bonté de Dieu. La loi relève de la justice et de la sainteté de Dieu. Et par conséquent, frères et sœurs, la loi n'a pas été donnée pour être annulée un jour. La loi a été donnée pour être accomplie un jour, une fois pour toutes. Et Jésus est le seul, comme vous le savez fort bien, qui est accompli parfaitement la loi au lieu de l'avoir abolie. C'est ainsi que dans la nouvelle alliance, Dieu accepte un pécheur. Dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, Dieu sauve le pécheur, Dieu pardonne le pécheur, Dieu justifie le pécheur, non en vertu de son obéissance à la loi, fût-il un scribe ou un pharisien, mais plutôt Dieu le sauve, Dieu le pardonne, Dieu le libère sur la base de sa foi en Jésus-Christ. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la nouvelle alliance est appelée une alliance plus excellente que l'ancienne. Voilà comment on parvient donc à cette justice qui surpasse celle des Juifs et des Pharisiens. On y parvient en acceptant l'obéissance parfaite, absolue, que Jésus a affichée, a consenti à l'égard de la loi, en obéissant à Dieu le Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Ce faisant, ceux qui croient en Jésus-Christ sont au bénéfice de sa parfaite justice. Leur justice, votre justice, ma justice, en Jésus-Christ, cette justice que Dieu nous a imputée est rendue parfaite en Jésus-Christ, qui est l'homme parfait, qui est le roi parfait, qui est le Messie, qui est le Fils de Dieu, ainsi, cette justice mène au royaume de Dieu, contrairement à la justice des scribes et des pharisiens qui ne saurait mener au royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est axée sur la compétence, sur la capacité propre des scribes et des pharisiens. Je crois que cela vous a aidé à voir la différence entre les deux formes de justice. Qu'est-ce que la justice des scribes et des pharisiens? Qu'est-ce que l'autre justice, c'est ce que je viens de faire, et pourquoi? Alors, c'est l'autre justice qui permet d'entrer dans le royaume, pourquoi elle dépasse, elle surpasse même celle des Juifs et des Pharisiens. Je viens de vous expliquer pour ça parce que, et pourquoi? Parce que, eh bien, c'est la justice que nous donne Dieu le Père en Jésus-Christ en inscrivant sa loi dans nos cœurs et en nous donnant son Saint-Esprit de Dieu et en imputant la justice de Jésus-Christ à nous. Alors voilà, ce faisant, on entre dans le royaume de Dieu. Donc, autrement dit, on est de nouveau et parce qu'on est de nouveau, on peut maintenant entrer dans le royaume de Dieu. Et une fois cela dit, Jésus va donner quelques applications. Les versets 21 jusqu'au verset 48 seront des applications de ce que Jésus vient de dire au verset 20. Il va prendre des exemples tirés de la vie religieuse, de la vie culturelle, de la vie cultuelle, de la foule, pour expliquer ce qu'il vient de déclarer au verset 20. À savoir que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, tout le reste, il va l'expliquer en s'appuyant sur leur vie religieuse, sur leur vie de tous les jours, sur leurs relations à partir de la loi entre autres, et des traditions, mais en particulier de leur compréhension de la loi. Verset 21, vous avez entendu dit, et vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est un exemple qu'il prend pour expliquer que la justice de ces gens-là, eh bien, est appelée à dépasser celle des scribes et des pharisiens, tout simplement. Les scribes et les pharisiens pensaient qu'ils n'étaient pas coupables du péché de meurtre. Ils étaient prêts à reconnaître qu'ils ont commis d'autres péchés, mais pas le meurtre. Le fait est que dans la tradition des scribes et des pharisiens, frères et sœurs, leur conception du meurtre est limitée, comme leur justice en général, telle qu'on vient de le voir ensemble. Leur conception du meurtre est limitée à l'acte extérieur du meurtre qui consiste à ôter la vie physique à une autre personne, à une personne physique, donc. Les scribes et les pharisiens, frères et sœurs, ne semblaient pas comprendre que Dieu exige des hommes d'abord la justice intérieure, cette justice que nous venons de voir qui vient du cœur, au lieu de la justice extérieure ou bien la justice légaliste. Or, bien avant l'époque de Jésus-Christ, David dira à l'Éternel, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David avait bien compris l'idée que la justice, c'est une affaire de cœur. Et le Seigneur dira à Samuel, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel 16, le verset 7. Le premier verset, c'était psaume 51, verset 8. Malheureusement, les Juifs, ou bien n'ont pas compris cela, les scribes et les pharisiens en particulier, les enseignants, l'establishment, ou alors ils l'ont compris, mais ils ont préféré mettre les traditions au-dessus de ces choses-là. Mais le fait que l'idée que la justice est d'abord une affaire de cœur, une affaire intérieure, ne date pas de la Nouvelle Alliance. Bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, cette vérité aura un accent particulier, mais c'est déjà enseigné depuis l'Ancien Testament, à la faveur, entre autres, de ces deux textes que je viens de regarder avec vous, à savoir Psaume 51, verset 8 et 1 Samuel 16, verset 7. Maintenant, Jésus veut corriger leur compréhension de l'Écriture, de la Bible, de l'Ancien Testament à l'époque. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Jésus est en train de leur dire, en paraphrase, ceci. Laissez-moi vous dire ce que les Écritures affirment elles-mêmes, ou du moins ce que Dieu dit par là en réalité. C'est que contrairement à ce que vous pensez, vous ne pouvez pas vous justifier vous-même, soi-disant, parce que vous n'avez pas commis l'acte physique du meurtre. Car le meurtre, c'est bien plus qu'un acte physique. Suivant l'éthique du royaume, le meurtre est bien plus qu'un acte physique. Suivant la justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, la justice de la Nouvelle Alliance tout au moins, ça va bien au-delà d'un acte physique. Le meurtre vient du cœur et non d'abord des mains. C'est ce que Jésus est en train de leur faire comprendre, de leur expliquer car ils ne l'ont pas compris. Jésus est en train de leur expliquer, entre autres, il a pris le maître, mais il fera la même chose avec la colère, il fera la même chose avec l'adultère, il fera la même chose, vous comprenez, c'est ce qu'il va faire dans la suite du passage. Le maître commence, dit Jésus, par les mauvaises pensées, et cela, même si les mauvaises pensées ne sont pas mises en action, le meurtre peut être effectué. En d'autres termes, dans la perspective du royaume, ou bien dans l'éthique du royaume de Dieu, une personne est tout aussi coupable de meurtre quand elle est en colère. Du moins certaines colères, pas toutes. Il y a des colères mauvaises, il y a des colères qui ne sont pas mauvaises. Voyez-vous? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. A remarquer qu'au verset 21, tu ne tueras point, celui qui tuera, verset 21, mérite d'être puni par les juges. Jésus dit, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous l'avez appris, je comprends, mais il y a plus que cela. Il n'y a pas juste celui qui tue. Dans l'éthique de la Nouvelle Alliance, dans l'éthique du royaume, quiconque ou bien celui qui se met en colère contre son frère mérite tout aussi bien d'être puni par les juges. Vous, c'est meurtre là où on est. Mais moi, je vous dis que ça va bien au-delà du meurtre. Quand une personne maudit une autre personne, Jésus dit que cette personne mérite d'être punie par les juges, comme c'est le cas pour celui qui tue. Sachant cela, l'apôtre Jean dira, quiconque est son frère est un meurtrier. 1 Jean 3, le verset 15. Donc, on voit que Jean est sur la même longueur d'onde que le roi du royaume lorsqu'il proclame cette vérité. Et je crois que ça vient de sa compréhension de la parole et aussi de l'enseignement de Jésus. Le point de Jésus ici, frères et sœurs, et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au verset 48, c'est de dire que les meilleures personnes sont dans leur cœur pécheresses, et donc, ils sont dans le même bateau que les pires meurtriers en ce qui concerne l'éthique du royaume de Dieu. En sorte que, c'est la grâce de Dieu seul qui fait la différence entre les pécheurs et non l'observance stricte ou l'application stricte de la loi suivant la conception des scribes et des pharisiens, frères et sœurs. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement ou alors mérite d'être jugé par les juges. La conséquence pour celui qui se met en colère et celui qui tue est la même, jugé par les juges dans l'éthique du royaume. En parlant de colère dans ce contexte, il y a une mise au point qu'il faut faire. C'est que Jésus n'interdit pas nécessairement ici toute forme de colère. Souvenons-nous que c'est dans une juste et sainte colère, dans une juste et sainte indignation, qu'il a purifié le temple de ceux-là qui le profanaient. Jean 2, 14 à 17. Dans la même veine, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ephésiens 4, verset 26. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, il y a une possibilité que certaines colères en elles-mêmes ne soient pas un péché. Il y a une juste, sainte et légitime colère qu'on peut éprouver en tant qu'enfant du royaume de Dieu qui n'est pas l'équivalent de péché ou de meurtre, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a de ces colères que, par exemple, la fidélité envers le Seigneur peut exiger dans certaines circonstances. Il y a de ces philosophies, il y a de ces normes, il y a de ces attitudes, il y a de ces comportements qui doivent être remis en question avec une juste et sainte colère, une juste et sainte indignation, parce qu'elles sont contraires aux vertus du royaume, à l'éthique du royaume, à l'honneur du royaume, à la sainteté du royaume, à la gloire du royaume de notre Dieu, frères et sœurs. Tout cela, c'est pour vous dire que Jésus ne parle pas ici nécessairement de toute forme de colère. Il parle de la colère vaine. Il parle de la colère fière. Il parle de la colère haineuse. Il parle de la colère vengeresse. On voit cette colère, entre autres, dans le fait de garder rancune, dans l'amertume qui refuse le pardon et la réconciliation. On voit cette colère dans la haine que nous entretenons à l'endroit de nos semblables. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de cette colère en disant racine d'amertume. Il qualifie son intensité ou bien sa profondeur comme étant racine d'amertume dans Hébreux 12, le verset 15. Jésus dit que ce genre de colère est une forme de meurtre et la personne qui la nourrit est passible d'être jugé par les juges. Comme je l'expliquais, si vous voulez comprendre, c'est quoi le rapport entre le verset 20 et le verset 21-22, mais Jésus prend un exemple pour montrer de quelle manière que la justice des scribes et des pharisiens est limitée. Elle doit être surpassée, frères et sœurs. Jésus poursuit au verset 22, son enseignement en disant « Celui qui dira, il prend un deuxième exemple, celui qui dira à son frère, Raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le terme raca, c'est un terme. Il me semble que raca, au temps de Jésus, dans la culture de ceux à qui il s'adressait, représentait une insulte, une grosse insulte. Dans son sens original en araméen ou en hébreu, raca, c'est stupide, hein? C'est pas mon terme, ok? C'est le terme du texte, de la lecture. C'est raca, le sens de raca, c'est stupide, à peu près. Et c'est idiot, ok? Mais le sens de raca aussi, c'est un type sans valeur. C'est folle, insensé, c'est tête vide. C'est ça le sens de raca pour les gens à qui Jésus s'adressait. Le sens de raca, c'est, pardonnez-moi le thème là, c'est pas mon thème là, mais je veux que vous compreniez là, c'est imbécile. OK? Pardonnez-moi, c'est pas mon terme. Mais je veux que vous compreniez. OK? Type sans valeur, insensé, idiot, sans cervelle, tête de poule, si vous voulez, imbécile, c'est ça. Donc, raca, comme expression, comme terme, comme insulte, comme injure, raca exprime le mépris, hein? Le mépris le plus total à l'endroit de la personne qui est traitée de raca, qui est traitée de tel. David a dit des personnes qui utilisaient le terme raca pour ce genre de calomnie qu'elles aiguisent leur langue comme un serpent. Elles ont sous leurs lèvres un venin d'aspic dans le psaume 140, le verset 4. Les gens de qui David parle dans ce verset avaient l'habitude de traiter les autres de raca aussi. Et raca, c'est le genre de mot que les soldats, hein, que les soldats ont probablement utilisé quand ils se moquaient de Jésus, lorsqu'ils ont placé un couronne d'épines sur la tête de notre Sauveur et qu'il le conduisait au lieu de crucifixion à Golgotha, frères et sœurs, Matthieu 27, versets 29 à 31. Jésus dit ici que traiter une créature faite à l'image de Dieu de raca, c'est traiter Dieu lui-même de raca. Et contrairement à ce que pensent les scribes et les pharisiens, cela équivaut à tuer cette personne. En d'autres termes, le mépris, dit Jésus, c'est un meurtre dans le cœur. La personne qui méprise mérite d'être punie par le Sanhédrin, au même titre que celui qui tue physiquement. Parce que la justice dans la Nouvelle Alliance ne se limite pas uniquement, mais dans l'Ancien Testament aussi, pas juste dans la Nouvelle Alliance, c'est eux autres qui déformaient l'Écriture. C'est eux autres qui axaient la justice de Dieu sur l'extérieur. Mais même dans l'Ancien Testament, ça a toujours été comme ça. La personne, le Sanhédrin plutôt, c'est ce grand conseil de 70 personnes, 70 juges, qui jugeaient, qui étaient là pour juger les offenses les plus graves et qui prononçaient en même temps les peines les plus sévères contre les offenses les plus graves. Donc Jésus voit celui qui a traité l'autre de raca comme quelqu'un qui est passible de jugement par le Sanhédrin. Ensuite, au verset 22c, Jésus dit « Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Là aussi, une mise au point s'impose. Dans la littérature grecque séculière, le terme d'insensé est utilisé pour décrire une personne obstinée et sans Dieu. y a un monde qui a une tête raide vis-à-vis bon Dieu. OK? Il y a un monde tête dure, il y a un monde qui têtu, il y a un monde qui rebelle vis-à-vis de Dieu, il y a un monde qui méprisant vis-à-vis de Dieu. OK? Ainsi, à deux reprises, psaume 14, le verset 1er, psaume 53, le verset 2, les psaumes nous disent, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, le Saint-Esprit utilise le terme insensé. Ne voilà-t-il pas que Jésus vient ici dire que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Mais on comprend très bien, c'est la même différence qu'il y a tout à l'heure entre cette juste colère et la colère fière, vengeresse. C'est à peu près la même chose. Le livre des Proverbes est rempli de références aux insensés. Et par le fait même, le livre des Proverbes a beaucoup d'avertissements qui sont adressés aux insensés. Plus près de nous, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dira, en utilisant un terme semblable, tout près de l'insensé, il dira aux disciples d'Emmaüs, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, voyez-vous? Tout cela, c'est pour dire que, ici, en réalité, Jésus, ce que Jésus interdit, c'est le fait de traiter une personne d'insensée, hein, par motif de haine, comme tantôt, par motif de haine, comme quand je parlais de colère, par motif de colère aussi, par motif égoïste ou autre. Mais nous savons, vous et moi, que ceux qui méprisent Dieu, eh bien, ils sont des insensés quant à la loi de Dieu. Et le Christ condamne celui qui dit à son frère insensé dans le sens que nous venons de l'expliquer et il explique que celui-là en même temps commet un meurtre. Toujours pour expliquer l'idée que la justice n'est pas une question d'extériorité, c'est avant tout une question d'intériorité. Ça commence dans le cœur. La justice ou bien l'injustice, ou bien le péché, n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi et surtout ce qu'on ne voit pas. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer en expliquant l'éthique du royaume. Bien important de comprendre cela. Traiter quelqu'un dans cette optique, dans cette perspective d'insensé, revient à commettre un meurtre. Et par le fait même, celui qui en est coupable mérite d'être puni par, cette fois-ci, le feu de la Géhenne. Traiter quelqu'un d'insensé au sens où nous venons de l'entendre équivaut, dit Jésus, à le maudire, équivaut à le tuer et à être coupable par le fait même de péché, c'est mériter le châtiment de la Géhenne. Mais le châtiment de la Géhenne, c'est quoi? C'est le châtiment de l'enfer. Nous trouvons le terme GN 12 fois dans le Nouveau Testament et 11 fois GN est utilisé par Jésus lui-même, frères et sœurs. Maintenant, si donc tu te présentes, là il va prendre un exemple, donc, tout ce qu'il a déjà nommé en haut, colère, traiter quelqu'un d'insensé, de raca, ce sont des exemples pour expliquer que, eh bien, la justice n'est pas qu'une affaire d'extériorité, c'est aussi une affaire d'intériorité. N'est pas que l'acte, c'est aussi l'intention. Le péché n'est pas que l'acte, c'est aussi l'intention. C'est ce qu'il va faire jusqu'au verset 48. Mais il donne un exemple dans les exemples. Hein. Il prend un exemple pour expliquer les exemples qu'il vient de prendre. Voyez-vous, au verset 23 à 24. Si donc, c'est un exemple de tout ce qu'il vient de dire. Hein? C'est un exemple, ouais. Il prend des exemples pour expliquer les exemples qu'il a pris. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parce que les gens à qui Jésus s'adressait, les gens de la foule, en tout cas les scribes et les pharisiens et les autres co-religionnaires, jusqu'avant la destruction du temple, ils avaient cette habitude, comme dans l'Ancien Testament, eh bien, de présenter des offrandes, d'apporter des offrandes au sacrificateur qui, lui, les offrira à l'Éternel au nom du peuple du Seigneur. Eh bien, pour expliquer ces exemples qu'il vient de prendre, Jésus prend l'exemple de l'adoration, l'exemple d'offrir des offrandes à l'Éternel. Et que là, tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Alors, Jésus est en train de dire que la relation avec Dieu passe avant l'adoration. La relation avec son prochain passe avant l'adoration. C'est ce que, en quelque sorte, Jésus est en train de dire. Hein. Il est en train de dire que l'éthique du royaume veut que tant qu'il y a du péché intérieur, les actes extérieurs d'adoration n'ont pas de valeur. C'est essentiellement ce qu'il est en train de dire au verset 23 à 24. Vous avez sans doute déjà entendu beaucoup de sermons, beaucoup d'enseignements là-dessus. Et dans l'éthique du royaume, suivant l'éthique du royaume, suivant la philosophie du royaume, eh bien, le péché intérieur ou extérieur, hein, rend l'adoration inacceptable. C'est radical quand il dit laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. L'éthique du royaume ici est radicale quant à la réconciliation, quant au pardon, quant à la bonne entente, quant à l'harmonie entre les co-religionnaires. Quand je commençais au verset 20, l'étude, la séance d'aujourd'hui, je vous avais dit que cela ne concerne pas les enfants du royaume dans une certaine mesure. J'ai expliqué pourquoi j'avais dit que cela ne concernait pas les citoyens du royaume parce qu'au verset 20, Jésus dit « Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». Mais une fois qu'on a fini d'être dans le royaume des cieux, une fois qu'on est devenu enfant du royaume, eh bien, ce que Jésus est en train d'expliquer s'applique à nous cette fois-ci dans ce sens-là. Au tout premier degré, il s'adressait à ceux qui ne savaient pas comment entrer dans le royaume de Dieu. Le principe, la logique d'entrer dans le royaume de Dieu, le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il a clarifié ça pour eux autres en s'adressant à eux en disant, vous, je vous le dis, vous n'entrerez pas. Mais cela ne veut pas dire que quand j'avais dit que ça ne nous concerne pas, ce n'est pas un genre de serviteur ou de pasteur qui va dire que Matthieu 5 ne concerne pas les chrétiens. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc j'espère que c'est réglé. Mais la consigne que Jésus donne ici, à savoir que le service, l'obéissance, une vie de justice est d'abord intérieure, ça concerne le royaume de Dieu, et en particulier d'ailleurs, frères et sœurs. Donc, ceux qui ne le comprenaient pas et qui voulaient se targuer d'être bon, d'être parfait, d'être obéissant, Jésus leur a dit, écoutez, si vous croyez être obéissant, regardez l'autre aspect de la chose, l'aspect intérieur, et vous allez tout comprendre. Mais cela dit, nous sommes appelés, nous les citoyens du royaume, puisque c'est le roi du royaume qui parle ici, qui explique la conditionnalité d'appartenance à son royaume, et de vie dans son royaume aussi. Donc, ce qu'il dit ici pour appartenir au royaume, eh bien, concerne également la vie du royaume. Et donc, c'est bien important de comprendre cela. Donc, l'appel est clair, à savoir que notre adoration, Dieu veut de notre adoration. Dieu a besoin de notre adoration. Dieu a besoin que nous lui chantions des chants. Dieu a besoin que nous apportions des offrandes dans sa maison pour faire avancer son royaume. Dieu a besoin qu'on soutienne les œuvres missionnaires, mais Dieu a besoin davantage, eh bien, que nous puissions avoir une relation saine, appropriée, empreinte d'amour entre nous. Hein? Et Jésus continue de parler du péché particulier de la haine. Donc, la réconciliation doit précéder l'adoration. Donc, s'il y a une façon dont nous pourrions résumer les versets 23 jusqu'au verset 26, d'ailleurs, eh bien, ce serait de dire que la réconciliation, le pardon, précède, dans le royaume de Dieu, précède l'adoration, frères et sœurs. Et pourquoi Jésus a-t-il senti le besoin de dire cela, frères et sœurs? Mais c'est pour la raison que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir que les Juifs ne regardaient pas les péchés intérieurs. Ils s'en tenaient simplement aux péchés externes. Les fautes internes, l'intention, les préoccupait pas du tout, très peu. Jésus est en train de leur dire que ce qui se passe dans l'intériorité est tout aussi important que ce qui se passe dans l'extériorité. L'intention vaut le faire. Voilà. Voilà, c'est en quelque sorte ce que Jésus est en train de dire. Verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Oh, 21h04, pardon. C'est maintenant que je viens de voir l'heure. Alors voilà, on s'arrête au verset 25. En fait, non, on a terminé, en quelque sorte, il me reste seulement à glisser un mot ou deux sur les versets 5 à 26, mais l'essentiel du message est couvert. Alors, voilà. Et j'espère que vous avez pénétré de l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous laisse la place pour une question ou deux. Et sinon, marquez vos questions et je les prends mercredi prochain du volant. Mais vraiment, je n'ai pas remarqué qu'il était déjà 21h04. Alors voilà, je m'arrête là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs.